Cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 9 octobre 1992.
De la vie d'intelligence. essaie de découvrir la vérité. Il y a cette attitude réflexive qui consiste à voir le cheminement que je suis. Si ce cheminement est correct, si je suis capable à chaque instant de me rectifier par rapport à la réalité. La critique est au service de la vérité. C'est pas elle qui découvre la vérité, mais elle fait le discernement. Ce qui découvre la vérité, c'est la connaissance philosophique. Et la critique n'est pas la connaissance philosophique. Mais la connaissance, la critique aide à la connaissance philosophique d'être parfaite. Et parce qu'elle est parfaitement lucide, elle peut vérifier à chaque instant de sa démarche philosophique, de sa démarche humaine, si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Si dans tel domaine je peux atteindre la vérité ou je ne peux pas l'atteindre. Dans tel domaine, j'accepte une connaissance analogique qui n'a pas la précision de la connaissance univoque, de la connaissance mathématique, mais qui va plus loin dans la pénétration de la réalité. La critique est au service de la vérité, d'une connaissance vraie. Et j'essaie d'élaguer ma réflexion philosophique, tout ce qui est de l'ordre de l'opinion, je l'élague tout en restant là, parce que je sais très bien qu'il y a beaucoup de domaines où je suis dans le domaine de l'opinion. Et j'essaie d'élaguer tout ce qui est erroné. Confusion entre opinion et évidence, opinion et vérité. L'opinion, c'est une connaissance imparfaite qui s'appuie sur l'autorité. On m'a dit ça. Alors tout dépend de la valeur du témoin. Parce que si le témoin a un miroir grossissant, je suis moi-même dans la même perspective. Et je ne suis pas dans la vérité. Et je le répète. Vous avez le droit de répéter l'opinion en disant d'où vient cette opinion et sur quelle autorité s'appuie cette opinion. Dis-tu ça de toi-même ou un autre te l'a dit. Dès que vous jugez selon l'opinion de quelqu'un, et si vous ne dites pas que c'est l'opinion de quelqu'un, vous êtes dans l'erreur. Et ça, c'est un fameux examen de conscience, hein, intellectuel, qu'il faut. Une purge radical. Il y a tellement de choses qu'on dit par mode d'opinion. Alors, la question de savoir si, en écoutant un cours, en l'écoutant, vous restez dans l'opinion. Ça, c'est une grave question, point de vue critique. Vous faites confiance à Thomas d'Aquin. À l'ombre d'Aristote. Vous vivez à l'ombre de vos professeurs. Forcément, tant que vous êtes étudiant, vous acceptez de vivre à leur ombre. Est-ce que vous restez entièrement dans l'opinion? Écoutez le frère lambda sur tel ou tel sujet. Ou écoutez celui que la Providence vous donne comme professeur. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que des deux côtés, c'est l'opinion? Un étudiant, comme étudiant, au point de départ, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande d'écouter. On lui demande de recevoir un enseignement. de ne pas vouloir juger trop vite, parce qu'il n'avancera pas. Il tombera dans la stérilité. Celui qui critique toujours tombe dans la stérilité. C'est très curieux, ça. Nous sommes un siècle qui va vers la stérilité. Je crois. Parce qu'on est tellement critique. Et la critique aboutit à la stérilité. À l'impuissance. Et on va tout droit vers ça. C'est extraordinaire de voir ça. Alors, écoutez quelqu'un qui enseigne et qui, plus est, reçoit de l'Église une autorité d'enseigner. Si j'enseigne la théologie, je l'enseigne avec la permission de l'Église. Donc, une autorité qui vient de l'Église. Si j'enseigne la philosophie dans un couvent, j'ai une autorité plus grande que par rapport à l'université. C'est curieux, mais c'est comme ça. Université laïque, je parle. Alors, il y a quelque chose de plus que l'opinion. Il y a une attente de vérité. C'est très différent. Je m'appuie sur l'autorité de celui qui me dit ça. Pour découvrir la vérité. Donc on a une opinion qui est toujours en vue de la découverte de la vérité. Donc je ne vis pas dans l'opinion. C'est un petit peu une science subalternée. Vous voyez, je m'appuie sur la science de celui qui m'enseigne. Je me sers de celui qui m'enseigne pour voir plus loin. Donc j'anticipe. C'est beaucoup plus qu'une opinion. Parce qu'il y a une confiance dans l'autorité de celui qui m'enseigne. Je dis ça, c'est parce que c'est des questions qui m'ont été posées ici et qui sont intéressantes à voir. Il faut au moins se poser la question. Qu'est-ce que ça représente exactement de répéter ce qu'on a reçu dans un cours de philosophie? Est-ce que c'est la pure opinion? Non, c'est plus. C'est l'attente de la vérité. Parce que on a confiance dans l'autorité de celui qui nous enseigne. Tandis que quand vous recevez du frère lambda, telle ou telle sa vision sur les choses. Qu'est-ce que c'est que la communauté Saint-Jean? Frère lambda, il y a 15 jours qu'il est là. Il y a un an qu'il est là. Et il croit savoir. Et il dit ce qu'il ressent. Là, on est en face d'une opinion, puisqu'il n'a aucune autorité. C'est tel individu qui fait partie d'un corps, d'une communauté, et qui dit sa réaction. Donc, c'est uniquement une opinion. Il n'a aucune autorité. Et je dirais, c'est même moins qu'une autorité. Parce que s'il critique, n'étant pas compétent, il est dans l'erreur. Et vous prenez une opinion, vous prenez l'erreur comme une opinion. Alors que cette opinion est vicieuse. Il y a un ver rongeur. Puisque son opinion est l'opinion de quelqu'un qui est de mauvaise humeur. Oui, voilà ce que la fait la critique. Elle oblige de passer au crible ce que j'entends du frère lambda. Ce que j'entends au cours de philosophie. Enseigné par quelqu'un qui reçoit une autorité de l'Église. Donc, plus, ou dans une université, de l'autorité de civile. qui ont choisi tel professeur en raison de ses compétences. Et quelquefois, au point de vue civil, on fait passer les petits copains avant. Parce que la politique pénètre tout aujourd'hui et ne respecte pas l'université. Et que l'université doit prendre la couleur politique, ce qui est vicié radicalement le point de vue de l'enseignement. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que l'autorité d'un enseignant? Et la critique. Je vous donne ces petits exemples, parce que c'est des exemples qu'on vit tout le temps. Hein. Un professeur d'université, au plan philosophique, qui ne recherche pas la vérité, qui est là uniquement parce que le petit copain l'a mis là. Et le petit copain l'a mis là parce qu'il est du même parti politique. Donc ça n'a rien à voir avec la vérité. Il n'a aucune autorité. Aucune. S'il a des compétences, il a l'autorité de la compétence. Parce que vous savez bien qu'il y a deux fondements de l'autorité. Il y a un fondement affectif et un fondement de compétence. Un père de famille a une autorité parce qu'il a mis au monde son enfant. Alors il a cette autorité. Ou il a pris un orphelin pour en prendre toute la responsabilité pour son éducation. Alors il a l'autorité de cette responsabilité et du fait qu'il a pris la charge d'éduquer quelqu'un. Il n'a peut-être pas toujours la compétence, mais il a cette autorité-là, naturelle, reconnue. Et puis il y a l'autorité de compétence. Et puis l'autorité pour nous, religieuse, qui repose sur la hiérarchie, qui repose sur le pape en dernier lieu. Alors, au plan philosophique, la critique, attitude réflexive. Normalement, la critique arrive en dernier lieu, puisque la philosophie implique une démarche organique, pas un système, mais une démarche organique, ordonnée. Sage d'ordonner. La critique est différente pour celui qui a atteint une contemplation ou celui qui n'a pas encore atteint de contemplation. Si vous êtes en train de faire une escalade, vous désirez atteindre le sommet d'une montagne. Si vous êtes à 1000 mètres et que vous regardez le chemin parcouru, vous avez un jugement. Si vous êtes à 2000 mètres et vous regardez le chemin parcouru, vous avez une autre vision. Si vous êtes à 3000 mètres et vous regardez le chemin parcouru, vous avez encore une autre vision. C'est pour ça que la critique de celui qui est à 5000 mètres ou de celui qui est à 1000 mètres est différente. Forcément. Ce sera toujours la même réalité qu'on regardera, le chemin parcouru. Le vécu de l'intelligence. Le vécu de l'intelligence, c'est le chemin parcouru. Le vécu de l'intelligence. Qu'est-ce qui est mon vécu actuellement? Bon, si de fait ma recherche philosophique atteint le sommet, la contemplation du Créateur. Mon regard philosophique aura une critique beaucoup plus pénétrante que celui qui reste au niveau des catégories aristotéliciennes. D'un peu Rasmussen, les catégories catégorie aristotélicienne. C'est, comme on dit, dans le nord de la Belgique et le nord de la France, il y a une montagne de 100 mètres d'altitude. C'est une montagne. Et quand on monte tout en haut, on est au sommet. On a une vision de celui qui est à 100 mètres. Tandis que si vous êtes sur une montagne de 4000 mètres d'altitude, vous avez une autre vision. Et si vous montez en avion, vous avez l'avantage et l'inconvénient que le chemin parcouru, ce n'est pas vous qui l'avez parcouru. Vous êtes laissé monter. Et vous avez dormi pendant ce temps-là. Vous avez fermé les yeux, parce que ça vous trouble un peu. Et puis tout d'un coup, vous les ouvrez. Oh, 9000 mètres d'altitude. Tiens. Et vous n'y comprenez plus rien. C'est vrai. Tandis que celui qui a parcouru tout comprend. Et l'Esprit Saint, de temps en temps, le vol de l'aile, il nous met dans un nid très élevé, dans le cœur de Jésus. Et puis l'Esprit Saint vous dit, regarde maintenant. Et dans l'ordre surnaturel, c'est toujours comme ça. Hein? Parce que si vous voulez critiquer uniquement le chemin que vous avez parcouru, vous n'avancerez pas. Vous laissez le Saint-Esprit libre. Mystérieux, tout ça. Vous voyez, c'est intéressant, le regard réflexe. Dans tous les domaines, vous avez le regard réflexe. Alors, le regard réflexe de la critique, c'est d'essayer de vérifier à chaque instant si les écrous tiennent. De vérifier à chaque instant si ce que vous avez atteint est juste, est vrai. Et puis vous avez l'autre attitude logique qui regarde comment ce qui est connu, du fait même qu'il est connu, a une manière d'exister différente que dans la réalité. On regarde l'universel. L'universel peut être regardé en critique. Il peut être regardé en logique. Et en logique, je regarde la méthode. Toutes les méthodes sont le fruit de la logique. La méthode est au service de la vérité, et non pas la vérité au service de la méthode. Quand vous mettez la vérité au service de la méthode, vous n'avancez plus. Vous restez dans le système. Tandis que lorsque vous mettez la méthode au service de la recherche de la vérité, vous comprenez qu'arrivé à un certain niveau, la méthode devient de moins en moins utile. Pas de méthode pour la contemplation. Il faut accepter de voler seul, sous le sceau de l'Esprit Saint. Il y a toujours un moment où la méthode demande d'être dépassée. C'est pour contempler. La contemplation peut être regardée par la critique, mais pas par la logique. La contemplation échappe à toute méthode. Dès que je suis dans la contemplation, je suis au-delà de toute méthode. Et je peux avoir un regard critique. C'est très très intéressant de voir les rapports entre la logique et la critique. Et Aristote, père de la logique, ne fais pas toujours la distinction entre la critique et la logique. Parce que la critique, depuis Aristote, s'est beaucoup développée. Elle s'est même imposée comme première, avec Kant. Alors je dis pas que Kant est le père de la critique. Je dis que Kant il a eu une telle crainte, une telle peur, qu'il a mis la critique avant la philosophie. Et mettant la critique avant la philosophie, la métaphysique a disparu. La philosophie première a disparu. Il n'y a plus que l'enfantement de l'anthropologie. Si vous mettez la critique avant, vous n'aurez plus qu'une anthropologie. C'est curieux, ça, du reste. C'est très intéressant de voir la naissance de la logique, la naissance de la critique, la naissance de la logique avec Aristote. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Tout le monde est d'accord qu'Aristote, c'est le père de la logique. Parce que c'est celui qui a compris ce que c'est que l'universel. Or, pour pouvoir comprendre vraiment ce que c'est que la logique, il faut regarder l'universel. Il faut saisir ce que c'est que l'universel. L'universel est un être de raison. Vous n'avez jamais rencontré l'universel. Vous n'avez jamais touché avec vos mains l'universel. Ça pèse pas lourd, l'universel. Ça n'a pas de poids. Ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas de goût. C'est l'universel. C'est dépouillé de toute sensibilité, de toute affectivité. L'universel, l'être de raison. Quelque chose qui relève de ma manière de connaître. Dès que je connais quelque chose, il prend un mode universel. Animal. Vous n'avez jamais rencontré l'animal. L'animal. Qu'est-ce qu'il est ? L'animal est un terme universel, et même un terme générique. Donc l'universel, dans ce qu'il y a de plus fondamental, c'est la logique qui regarde l'universel. Et la logique regarde les différents rapports de l'universel entre les diverses modalités de l'universel. Et vous avez alors à ce moment-là ce qu'on appelle les cinq prédicables. Qui sont le fondement de toute logique. Le genre, la différence spécifique, l'espèce, la propriété et l'accident. Ça, c'est le fondement de la logique. La logique se fonde sur l'universel. Et vous avez ces cinq modalités d'universel. Et ça, vous le retrouvez tout le temps, même chez les philosophes qui de fait, n'en parlent pas ou n'ont jamais conçu. Dans le langage, vous trouvez les cinq prédicables. Pierre est un homme. Pierre est intelligent. Il a du cœur. Pierre a des choses. Pierre. Est actif. Vous voyez, dans le langage, vous trouvez. Lisez le journal, les cinq prédicables, disons. Mais celui qui a écrit le journal n'a pas pensé aux cinq prédicables. Et c'est pour ça que c'est souvent confus. Parce que la rhétorique joue avec les cinq prédicables. C'est le propre de la rhétorique. Elle ne cherche pas la vérité. Celui qui cherche la vérité comprend qu'il y a cinq manières de regarder une réalité. C'est extraordinaire, cinq manières. Toujours, ça existe tout le temps. C'est la structure de mon intelligence qui abstrait. Cinq prédicables et dix prédicaments. Alors ça, c'est l'attribution appliquée à l'homme. Les cinq prédicables Bon, ça c'est la logique. La logique traditionnellement s'enseigne à la première année. Il y a une lacune ici, c'est qu'on n'enseigne pas la logique. Je dis bien, il y a une lacune. Parce que on est tellement pourri de la logique que c'est quelquefois un petit peu dangereux d'enseigner trop. Mais il faudrait progressivement voir ce qu'est la logique. C'est un art. C'est un art, la logique. C'est plus. C'est pas de la philosophie. C'est un art. C'est un art qui permet de rééduquer dans ma manière de connaître pour connaître correctement, pour ne pas confondre un prédicable générique avec un prédicable spécifique, un prédicable propre avec un prédicable accidentel. Permet de raisonner correctement. Mais vous comprenez, avant de raisonner correctement, il faut avoir quelque chose à dire. Autrement, on tourne indéfiniment et puis rien. Le contenu de la pensée n'est pas logique. Le contenu de la pensée est dans le philosophique, est dans le scientifique, est dans le mathématique. Mais la manière de le concevoir est logique. Être connu par la logique. Tandis que la critique, elle, regarde ma manière de connaître, pas le fruit de cette connaissance, pas ce qui émane de cette connaissance humaine à partir de l'abstraction, mais regarde ma manière de connaître. Et c'est cela que regarde la critique. Si la critique et la logique sont des connaissances réflexives, elles sont donc toujours secondes et non pas premières. La grande erreur de Kant, qui a eu une très grosse influence et qui continue d'avoir une très grosse influence, surtout sur la pensée allemande. Et aujourd'hui, comme l'Allemagne a une grosse influence au point de vue philosophique comme au point de vue théologique, on se laisse imprégner par Kant. Pour Kant, la critique est première. Alors ça, c'est très intéressant et c'est comme ça qu'on doit aborder Kant. Pourquoi ? Pour Kant, la critique est première. Parce que pour lui, il y a quelque chose d'antérieur à la critique qui n'est pas l'expérience, qui sont les formes a priori. Donc il y a encore quelque chose d'antérieur à la critique. Mais la critique est première dans l'ordre de ma connaissance propre, de ma connaissance humaine. Et la critique mettra en pleine lumière toutes les formes a priori. Tout ce qui m'est donné par naissance. Tandis que pour Aristote, comme il n'y a pas de forme a priori, la critique présuppose une première connaissance. Donc, je laisse Kant de côté, parce que nous ne voulons pas être kantiens, et j'essaie de comprendre que la critique est toujours seconde. Première connaissance philosophique. Et j'essaie, en critique, de saisir la valeur de ma connaissance. Vous voyez, le terme valeur vaut en critique. Parce que la critique ne touche pas la finalité. Elle touche ma manière de connaître. Or, ma manière de connaître, ça fait la valeur de ma connaissance. Sa méthode est une méthode réflexive. Et ce n'est que dans cette méthode réflexive que la philosophie apparaît. Et donc, on peut dire que cette attitude-là reste dépendante de Kant. Puisque la critique me met en présence d'une pensée philosophique. Il n'y a pas de pensée philosophique avant. Au sens strict, il n'y a pas de pensée philosophique. La philosophie naît dans l'attitude réflexive. On a tellement peur de la naïveté de l'intelligence. Vous voyez, la suprême injure aujourd'hui qu'on peut faire à un intellectuel, vous êtes naïf. Vous croyez encore au Père Noël. Vous êtes naïf au plan religieux, au plan intellectuel, au plan critique, au plan philosophique. On a tellement peur de la naïveté qu'on s'est mis derrière l'attitude réflexive. C'est le philosophe qui, dans une forteresse, on a levé les ponts. C'est les ponts de vie. Alors on ne peut faire qu'une seule chose. C'est jeter de la poix sur tous ceux qui désirent être tout proches. On critique tout. On est hyper critique. On jette de la poix sur le voisin. De la poix brûlante. Pour l'empêcher de presser. C'est très curieux, ça. Je crois que c'est un phénomène de peur. Pourquoi? Parce que la science s'est développée après la philosophie. C'est évident. La science moderne, les mathématiques sont antérieures à la philosophie. Et tout le monde l'accepte. Mais est née à partir des mathématiques les sciences modernes. Et les sciences modernes prennent tous les domaines que les philosophes anciennement regardaient. Jusqu'aux sciences humaines, jusqu'à la psychologie, la sociologie. Alors le philosophe sait plus ce qu'il doit dire, puisque tout est envahi par la science moderne. Alors le philosophe se réfugie sa forteresse, qui est la réflexion sur sa conscience, la conscience qu'il a de penser. Et c'est cette conscience de penser qui fait la philosophie. Je me souviens, je dis ça à titre d'exemple, pas plus, mais c'est intéressant. Un cours sur le mal devant des savants. Et il y avait parmi ces savants celui qui était le représentant de la science, Vatican II. La première fois que j'ai rencontré. Il m'a dit, c'est curieux. Ce que vous me dites m'intéresse, même en tant que savant. Pourquoi, pendant le concile, j'ai essayé d'avoir contact avec les théologiens. C'était impossible. Ils se réfugiaient dans la conscience. Et en tant que savant biologiste, c'est pas ça qui m'intéresse en premier lieu. Ce qui m'intéresse en premier lieu, c'est la réalité. C'est l'expérience. Et vous, vous fondez votre philosophie sur l'expérience et non pas la conscience. Ça m'a beaucoup intéressé. Parce que ça fait comprendre comment une philosophie qui se base sur l'expérience est antérieure à la conscience. Et la conscience présuppose une réflexion sur ma connaissance. aller se réfugier dans un domaine qui est réflexion sur leur propre connaissance. Sur leur propre connaissance, la conscience que j'ai de connaître. Alors qu'ils devraient comprendre que le savant qui veut être objectif implique une abstraction mathématique, légitime en mathématiques, mais qui, par le fait même, ne me permet pas d'atteindre le réel existant. C'est bien quelque chose d'objectif, mais ce n'est plus le réel existant. Et il faut que la philosophie comprenne que, restant liée à l'existence, elle touche quelque chose que le savant ne touche pas. Je sais très bien que la conscience que j'ai de connaître, ça fait partie de la critique. Mais avant la critique, il y a une connaissance philosophique qui est propre au philosophe et que le savant ne peut pas atteindre. Donc j'ai deux domaines qui échappent à la science. Le domaine proprement philosophique de la réalité existante, l'homme. Et le domaine réflexif critique. Ce domaine réflexif critique existe, mais ce n'est pas premier. La philosophie ne commence pas par une attitude réflexive. Elle commence par une expérience. On peut dire que je suis naïf. Ça n'a pas d'importance. Parce que cette expérience sera toujours critiqué, non pas comme expérience, puisqu'il y a dans l'expérience quelque chose qui est au-delà de la critique. Le jugement d'existence, comme nous le verrons, est au-delà de la critique. Et le jugement d'existence est présent dans l'expérience philosophique. C'est la différence entre l'expérience philosophique et l'expérimentation scientifique. Et là, on touche quelque chose d'extrêmement important, difficile, très difficile. Vous mettrez du temps à bien le saisir. Vous mettrez du temps. Il faut le laser philosophique pour le saisir. Pour bien voir exactement où passe la philosophie, comparativement à la science, comparativement